La semaine dernière, notre frère Bernard nous a partagé cette pensée de comment, quels sont les facteurs pour une église qui avance, n'est-ce pas? Nous avons vu quelques points. Et comme je vous ai partagé après son message, c'était une piste sur laquelle j'étais en train de travailler. Donc je bénis le Seigneur, c'est une confirmation, c'était la bonne direction. Et ce matin, je voudrais avec vous évoquer les défis d'une église qui avance. Parce que c'est important de savoir ce que Dieu nous a donné comme outil, comme moyen, je dirais même comme puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu nous a donné ces facteurs, ce n'est pas pour dire nous avons, mais pour nous en servir. Et ces moyens si importants, si glorieux, si merveilleux, ils nous sont donnés pour faire face à des défis. Sommes-nous conscients des défis qui sont devant nous ? C'est un sujet pour moi de prière, de dire, Seigneur, quelle est ta vision pour l'Église ? La parole de Dieu nous dit que faute de vision, le peuple périt. D'autres traductions se disent que le peuple fait ce qui lui plaît. D'autres traductions disent que le peuple s'éparpille. Waouh ! C'est vrai que faute de vision, on pourrait chacun se dire « ma vision est la bonne ». Mais je crois qu'il est important, il est nécessaire, il est primordial que nous ayons la vision de Dieu. Amen. Et que nous allions tous dans la même direction. Alors comment faire? Quelle est la bonne solution? Vous savez, je suis toujours, et je continuerai de le dire, convaincu que dans la parole de Dieu, nous avons pour nous toutes les directions pour notre vie spirituelle. Nous avons toutes les indications. Il faut juste prendre le temps d'y méditer et de dire, Seigneur, est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est ainsi que je dois fonctionner? Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 11. Nous allons faire une lecture qui peut sembler longue, fastidieuse, mais nécessaire. Le chapitre 11 du livre des Actes. La parole de Dieu dit, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent « Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais. Lorsque, en extase, j'eus une vision. » Un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis des quadrupèdes de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles, des oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car j'ai rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois du ciel, la voix reprit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela se produisit jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présenter à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présenta en disant « Envoyé chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison. » Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors, je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons-nous cru au Seigneur Jésus-Christ ? Qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenus après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche. Ils annonçaient la parole et à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Si nous faisons une simple lecture de ce texte, on pourrait se dire qu'il y a un ensemble de choses qui se produisent, mais où est la direction de Dieu pour nous ? Après, si nous regardons bien, nous examinons qu'en effet, c'est les défis de la première Église. Et dans la parole de Dieu, nous avons ces exemples incroyables qui viennent nous encourager à bien regarder mieux autour de nous ce qui se passe. Alors, première chose, il dit la parole de Dieu que Pierre va se trouver, après être monté à Jérusalem, à être pris à partie par qui ? Par ses propres frères. Étonnant. L'apôtre Pierre, celui qui était quand même considéré le plus grand, qui va devoir s'expliquer. Des frères viennent lui demander des comptes. Comment est-il possible que toi, tu sois rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ? Quand on est à distance et qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les autres, on pourrait être tenté de vite juger. De vite considérer, ce n'est pas bien, c'est bien. Vous savez, on a une certaine facilité à sortir l'épée et couper. Mais je crois que Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes de paix. Et avant de rentrer dans des mérites qui parfois ne nous concernent pas du tout, on devrait avoir cette sagesse de dire, Seigneur, est-ce que c'est de mon ressort de rentrer dans des mérites qui ne sont pas les miens ? Moi, je crois qu'il est bien, on a assez à faire, déjà à voir où nous en sommes, nous, de manière personnelle. Il y a déjà assez de travail, non ? Et si nous arrivons à faire bien les choses, Seigneur, merci. Parce que si je prends ou je fais quelque chose qui ne me revient pas, déjà je me suis loupé. La parole de Dieu nous dit quand même, occupez-vous. Quelqu'un dit que c'est l'onzième commandement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je pense qu'il y a du vrai. Et pourquoi du faux ? Si la parole de Dieu nous dit de faire attention à garder notre langue en bride, de garder nos attitudes aussi soumises à Dieu, il est important pour nous d'analyser. Donc, ses frères viennent voir Pierre et ils l'attaquent direct. Dieu soit béni pour la sagesse de Pierre. Ce n'est plus le même Pierre. Je pense que s'ils avaient posé la question à Pierre avant le baptême du Saint-Esprit, là, il y aurait eu des impositions des mains et des pieds. Pierre aurait réagi d'une manière certainement très virulente en disant « Mais de quoi tu te mêles ? Qui es-tu pour faire ceci ? Qui es-tu pour venir me dire cela ? Tu n'étais pas avec moi, tu n'as pas su. » Ce n'est pas le discours de Pierre. Pierre fera un rapport de mission bien détaillé. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est la manière où Dieu agit. Puisque je crois que quand nous sommes dans la vision et dans la volonté d'accomplir ce que Dieu nous demande, parce que vous avez bien vu, Pierre va être interpellé par Dieu. Il va lui donner une direction qui sort de ce qui étaient les coutumes et les habitudes du peuple. Donc on peut aussi comprendre l'inquiétude de ses frères qui viennent le voir en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait, Pierre ? Toi qui dois être un exemple, pourquoi tu es allé dans cette direction ?» Et finalement, on voit que ce n'est pas Pierre qui a choisi la direction. C'est Dieu qui lui a indiqué. « Ne considère pas impur ce que Dieu considère pur. » Waouh, quelle parole ! Moi, je comprends que Pierre, il s'est dit « Seigneur, tu me dis de le faire. Oh là, dans le passé, j'ai été rapide dans mes discours. Et là, tu me dis, je me tais, Seigneur, j'obéis. » Et il partit sans inquiétude. Quand Dieu nous donne une direction, je crois qu'il est important pour nous de ne pas être inquiets de ce qui va suivre, puisque Dieu est aux commandes de toutes choses. Quelle grâce merveilleuse de voir Pierre rentrer dans la maison de cet homme. Et il dit, lorsque je commençais à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux et les baptisa comme ça avait été le cas pour nous. Frères et sœurs, quand nous sommes dans la vision de Dieu, ce n'est pas nous qui faisons les choses. C'est le Saint-Esprit. Je dirais que c'est le sceau de Dieu pour nous prouver que nous sommes dans la bonne direction. Alors le véritable défi pour l'Église, c'est de rester dans la vision de Dieu et de laisser le Saint-Esprit agir. Est-ce que nous voulons voir le Saint-Esprit agir ? Vous êtes sûr ? Ça décoiffe. Ben oui, ça décoiffe, forcément, parce qu'il va faire des choses que nous, on n'a pas prévues, qui ne rentrent pas dans notre vision personnelle. Mais Seigneur, que fais-tu ? Pourquoi tu baptises des païens ? C'est pas possible, Seigneur. Si vous saviez combien de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit pendant cette période du Covid où ils étaient enfermés chez eux, ils n'étaient pas dans une église, et le Saint-Esprit est venu et il les a remplis. Amen. Est-ce qu'on va dire au Saint-Esprit, t'as mal agi ? Ça se fait seulement dans les réunions prévues à cet effet. Il faudrait qu'on reste dans les clous de ceux qui... Mais moi, je me dis, Seigneur, si baptise tout le monde. Seigneur, fais qu'il y ait un chamboulement tel, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit embrasse les cœurs de tous ceux et celles à qui nous avons témoigné, que le Saint-Esprit embrasse les cœurs. Nos paroles ne seront plus nécessaires, frères et sœurs. Non ? Qui a envie de voir ça ? Mais qui a envie aussi de renoncer à ses propres visions, à ses propres principes, à ses propres discours? Alors quelle grâce ! Quelle grâce de voir l'action de Dieu agir ! Quelle grâce de voir ce changement de méthode et changement de regard de Dieu, mais pas de changement de doctrine. Parce que changer, oui, parfois Dieu nous dit « prie debout ou prie à genoux », ce n'est pas un problème. Tu peux prier allongé sur ton lit, c'est quoi le souci ? Tu peux prier pendant que tu conduis, tu peux prier pendant que tu marches, tu peux prier pendant que tu fais du vélo, non ? Je me rappelle d'un frère qui avait raconté son témoignage. Il a prié parce qu'il s'est retrouvé dans l'eau et il y avait un gros requin qui venait. On aurait pu lui dire, mon frère, tu n'étais pas à genoux pour prier. Mais là, la prière, ça a marché parce que le requin, il passait juste à côté, il ne l'a pas touché. Hein ? C'est vrai que le requin aurait pu aussi prier, dire, Seigneur, merci pour le repas d'aujourd'hui. Hein ? Vous auriez été heureux, vous, que le requin prie ? Mais le frère, il était heureux que le requin, Seigneur, lui ferme les yeux. Des fois, on fait des expériences, on se dit, mais Seigneur, comment est-il possible ? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce frère ? Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Vous savez, parfois, c'est nous qui mettons des limites. C'est pour ça qu'on ne vit pas de miracles. Parce qu'on met un cadre. Parce qu'on voudrait que Dieu fasse les choses comme nous, on l'a décidé. Mais il est Dieu. Et nous, non. Nous, on est limités. Pas lui. Lui, c'est toute chose. Pas nous. Quand lui parle, nous, il faudrait qu'on se taise. Non ? Et quand on parle, réfléchissons à ce que nous allons dire. Parce que la parole n'est pas sortie de notre bouche, que Dieu la connaît déjà. Et des fois, on se dit, Seigneur, mais je ne comprends pas, tu n'as pas entendu ma prière ? Et il dira, vous ne recevez pas parce que vous demandez. Bon. Il est question aussi, frères et sœurs, pour l'Église, un des principes, je dirais, un des défis, c'est celui d'accepter de payer le prix pour Dieu. Dans le texte que nous avons lu, il nous est dit que l'Église, elle vivait un temps de persécution. Et ils furent obligés de quitter, de partir. Vous savez très bien ce qui s'est produit. Avant que Jésus parte dans le ciel, il leur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Et jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils étaient tellement bien à Jérusalem, avec ce qui se vivait, avec ce qui se passait, il y avait des milliers de conversions qui avaient envie de quitter une église en plein mouvement pour partir en mission, peut-être dans un lieu où il n'y avait rien du tout. Personne. La preuve, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Chose très bonne. Mais Dieu leur dira, ben, vous vous rappelez, je vous avais dit d'aller par tout le monde, quand même. Alors, est-ce que Dieu a envoyé une persécution ? Non. Mais il a permis pour que finalement le peuple fasse ce que Dieu avait décidé. Et donc, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des hommes qui sont partis de Jérusalem, des hommes et des femmes, ils sont partis, ils sont allés dans d'autres endroits, mais eux aussi, ils ont limité leur action à ce que eux, ils comprenaient, ils voyaient ou ils ressentaient dans leur cœur. Et donc, ils ne parlaient pas à ceux qui n'étaient pas juifs. Qu'est-ce qu'il a fait le Saint-Esprit ? Il en a envoyé d'autres. Qui, eux, ils ne se sont pas posé le problème. Grecs, chypriotes, turcs, d'où tu viens, où tu vas, tu as besoin de Jésus. Eh bien, je vais te parler de Jésus. Sommes-nous prêts à parler de Jésus à tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin ? Ou est-ce que nous avons des a priori ? Ou est-ce que nous avons nous-mêmes des freins ou des craintes de se dire, mais comment je vais être capable de lui parler ? Comment je vais faire à lui dire quelque chose qui va toucher son cœur ? Mais tant que tu penses que c'est à toi de le faire, ça n'arrivera jamais. Puisqu'en réalité, le seul qui peut convaincre, c'est le Saint-Esprit. De là l'importance pour l'Église, et c'est un vrai défi, de rester dans cette unité de l'Esprit et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, ils ont parlé. Et là, il y a eu d'autres conversions. Étonnant. Quel changement. Il est question, frères et sœurs, parfois, d'être prêt à payer le prix humain, affectif, le prix aussi de l'engagement, le prix du service, où le Seigneur nous demande « va ». Seigneur, mais va. Seigneur, mais tu sais, j'avais pensé qu'on pourrait faire différemment. Si tu envoyais le frère un tel, il parle bien à lui. Seigneur, si tu envoyais l'autre famille, ils sont bien eux. Pourquoi moi, Seigneur ? Et pourquoi pas ? Non ? Quand vous avez donné votre cœur au Seigneur, est-ce que vous lui avez dit, Seigneur, je te donne tout ? Ou est-ce que vous lui avez remis que vos problèmes ? Le défi pour l'Église d'aujourd'hui, c'est d'accepter de faire ce que Dieu demande. Parce que vous savez, si nous on n'accepte pas de rentrer dans ce que Dieu nous demande, Dieu le fera avec d'autres. Et on sera déçu de se dire, Seigneur, pourquoi nous on ne voit pas de miracles ? Mais tu n'as pas voulu y aller là où il y avait besoin des miracles. Seigneur, mais on était tellement bien entre nous. Mais le Seigneur n'est pas venu faire un club. Non, pas du tout. Il est venu chercher les perdus dans, je crois, nous faisions part. Non ? Et si nous avons été sauvés, c'est par grâce. Et cette grâce, elle est tellement abondante qu'on n'a pas à avoir peur de ne pas en avoir suffisamment. Donc, l'Église, un des défis de l'Église, c'est d'accepter d'être une Église missionnaire. Verset 22. Regardez ce mot. Le bruit. Qu'est-ce que ça vous évoque, le bruit ? En lisant ce texte, je me suis dit, parfois, le bruit, ça nous amène à se méfier, à se sentir ou se sentir concerné. Quand on entend un bruit, ça touche notre sensibilité, notre curiosité spirituelle. Comprenons bien. Il n'y a pas d'autre type de curiosité parmi nous. J'ai entendu un bruit. Et le problème, c'est qu'on a tous les moyens aujourd'hui pour amplifier le bruit. J'ai appris. Mais au lieu de prier, j'appelle. Et après, l'autre appelle l'autre. Et vous savez, maintenant, on peut faire des multi-appels, des conférences. La conférence du bruit. Et là, encore une fois, il y a un bruit. D'accord ? Mais je bénis le Seigneur parce que l'Église n'a pas agi comme la première fois où elle a demandé des comptes à Pierre. Ils se sont dit... Il dit le texte, un bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas. Ah, bonne réaction spirituelle. Le défi, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs. Non ? Alors Barnabas, il arrive sur place et cet homme, qu'est-ce qu'il voit quand il arrive ? Lorsqu'il fut arrivé, il vit la grâce de Dieu. Frères et sœurs, si nous sommes une église qui veut... répondre aux défis de notre génération, de notre nation. Nous devons être une église missionnaire qui exhorte et qui fait preuve de bonté, qui fait preuve de plénitude de l'esprit, qui fait preuve de foi et qui agit pour favoriser. Moi, je me réjouis de voir l'église grandir. Qui est heureux ? Mais est-ce que le but, c'est juste de remplir des chaises ? Parce que vous savez, si on ne va pas plus loin, le Seigneur nous dira, ben, il n'y a pas de raison. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but. C'est le Dieu de la multiplication. Et nous faisons partie de ces facteurs de multiplication. C'est pour cela que l'Église se doit d'être une Église missionnaire. Dire, Seigneur, quelle est la mission que tu nous donnes ? Seigneur, où est-ce que je peux multiplier le témoignage de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, pour que ce témoignage puisse, Seigneur, faire qu'il y ait beaucoup de bruit. Moi, je prie, Seigneur, qu'il y ait beaucoup de bruit, dans le bon sens. Non ? Vous imaginez qu'on entende un bruit, ben, il y a des églises qui s'ouvrent partout. Seriez-vous triste ou heureux ? Qui serait heureux ? Eh bien, moi, je vous encourage. Et je prie pour que le Seigneur fasse que vous fassiez partie de ce bruit. Que vous fassiez partie de ceux qui génèrent ce bruit. Parce que c'est ça que le Seigneur veut de son Église. Et vous regardez dans ce texte, il dit la parole de Dieu, ils ont envoyé donc quelqu'un qui avait une vision peut-être différente, qui n'était pas enfermé dans ça, dans une réflexion religieuse. Il était, on dit, avec une ouverture d'esprit, de cœur. C'était un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. Il faut de la foi pour voir ce que Dieu va faire là où pour l'instant peut-être il n'y a rien. Un missionnaire, quand il arrive dans un endroit, il n'arrive pas dans un terrain ou dans une église déjà bien constituée. Il arrive là où il n'y a rien, mais Dieu lui montre ce qu'il va faire. Moïse, avant de partir pour la patrie céleste, où Dieu va le recueillir, il va dire « Je vais te montrer ». Quel merveilleux Seigneur nous avons qui nous montre et qui nous permet de partir le cœur heureux en disant « Seigneur, ce que tu as promis, tu le fais. Tout lieu que mon pied foulera, tu me le donnes, Seigneur. Seigneur, ce que tu as promis pour ma famille, tu l'accompliras, Seigneur. Peut-être moi, je ne vais pas le voir. » ou tu vas me le montrer juste avant de partir, Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que tu vas l'accomplir. Et là, Barnabas, il agit avec ce cœur de venir et d'encourager. Une église missionnaire qui encourage, qui œuvre et qui est capable aussi, excusez-moi, de se démunir parfois pour que l'évangile se répande. Un homme comme Barnabas, on en veut tous dans les églises, non ? Non ? Oui ou non ? Un homme rempli de l'esprit, un homme bon, un homme qui sait aussi être un homme de foi. Mais nous demandons de ça. Qui voudrait voir ça ? Mais est-ce que ce n'est pas à ça qu'on doit aspirer tous ? Est-ce qu'on ne doit pas, nous, tous, devenir un peu, comme cet homme Barnabas ? Alors, il est aussi un homme qui accepte la direction de Dieu et œuvre pour. Barnabas verra un besoin. Barnabas verra une occasion. Barnabas saisira une situation et se dira, « Seigneur, quelle est ta direction ?» Si on avait été, nous, à la place de Barnabas, je me suis posé la question, si j'avais été à la place de Barnabas, est-ce que je serais allé chercher Saul ou est-ce que je serais rentré à Jérusalem, vu ce qui s'est passé avec Pierre, vu comme ça a chauffé, je couvre mes arrières, je viens à Jérusalem, les frères, le bruit est vrai. Voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire ? Mais non, Barnabas, il prie et Dieu lui dit, va chercher Saul. Il va, il cherche Saul et celui qui cherche, amen. Et moi je crois que Dieu a toujours des ouvriers prêts à rentrer dans la moisson. Mais est-ce que nous sommes nous prêts à les chercher ? Est-ce que nous sommes prêts à les engager dans la moisson ? Est-ce que nous sommes prêts aussi à dire, viens, on va travailler ensemble ? Parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Je ne sais pas si Barnabas et Saul se connaissaient bien. Je ne sais pas s'il y avait une relation d'amitié, s'il y avait une relation autre. Mais je crois que ce qu'on savait de Saul de Tarse pouvait quelque part mettre une certaine crainte à Barnabas, non ? Va chercher celui qui a fait mourir Étienne. Oh, vous vous rappelez comment s'est-il passé que les autres soient partis à cause de quoi ? Mais justement à la mort d'Étienne. Et quand on perd quelqu'un qu'on aime, frères et sœurs, si on sait qui est responsable, est-ce qu'on le regarde comme un frère, comme un ami, ou on le regarde comme quelqu'un à éviter ? Il ne pense pas comme moi, lui. Il n'a pas fait la même école. Il n'a pas été baptisé par le même pasteur. Ah non, 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 on n'a jamais prié ensemble. Je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas comment. Et vous savez, il arrivera un temps, frères et sœurs, où tous ces préceptes vont tomber à l'eau. Parce qu'on n'aura plus même pas le droit de dire qu'on est chrétien. Peut-être il faudra revenir à faire des petits dessins par terre. Et si l'autre y complète, on sait où on va. Vous avez bien compris, non ? Est-ce que là, on est en train de lui demander, donne-moi ton CV spirituel. Tu as fait quelle haute université avant qu'on discute ? Ou est-ce qu'on va s'assurer qu'il soit rempli du Saint-Esprit ? Et puisque le Saint-Esprit est le même chez lui et chez nous, puisque nous avons le même Seigneur, le même Sauveur, qui prie debout, qui prie à genoux ou qui prie allongé, ça ne change rien. Je dis, Seigneur, merci pour ce frère. Merci, Seigneur, pour cette sœur, parce que nous allons voir encore des miracles. Alors, il prend cet homme, Saul de Tarse, et il le ramène avec lui. Et Dieu travaille avec ceux qui acceptent les hommes choisis par lui. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a le choix de Dieu des hommes. Il y a le choix de Dieu de la méthode, et quand Dieu choisit les hommes et la méthode, quel est le résultat ? Amen. Est-ce que ce n'est pas une église bénie, ça, de voir que Dieu accorde de passer de victoire en victoire. Et la parole de Dieu nous dit que le nombre de ceux qui se convertissaient grandissait pendant une année. Ils étaient là et ils enseignaient une foule assez nombreuse. Gloire à Dieu. Une église qui avance est une église qui sait accepter les choix de Dieu. Même si ces choix parfois pourraient nous sembler étranges, même si la méthode pourrait nous sembler étrange. Alors il y a quelque chose qui vient encore particulièrement toucher cette idylle de foi, ce moment joyeux, ce moment, on pourrait dire, de réussite, de succès de l'Église, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu des prophètes qui arrivent, et parfois les prophètes cassent la baraque. On était tellement bien dans ce bon projet, tout va bien. Pourquoi tu viens nous raconter des choses maintenant qui nous mettent en difficulté? Pourquoi tu me dis quelque chose qui, ah, ça m'attriste? Juste là, tout allait bien. Maintenant, regarde, Agabus arrive et Agabus met la pagaille. Mais ce que Agabus va dire, c'est ni plus ni moins ce que Dieu lui a révélé. Et ce que je trouve incroyablement merveilleux, c'est que cette église naissante, cette église qui se trouve dans un lieu où il y avait pour le plus des personnes qui n'avaient aucun rattachement à la foi des Juifs, ils vont appeler les disciples chrétiens. Waouh ! C'est beau quand les autres, excusez-moi, nous collent une belle étiquette sur le dos. D'ailleurs, sommes-nous heureux de porter l'étiquette de chrétien ? Que ça veut dire chrétien ? Donc ça veut dire que moi je suis petit et Christ est grand. Jamais l'inverse. Amen. À réfléchir, à méditer. Si on me reconnaît comme quelqu'un qui est un petit Christ, mais qui est un grand Seigneur, c'est toujours bon, non ? Je disais ce matin au moment de prière, j'ai pris ce texte où Jésus répondra à Marie et Joseph. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Et je disais qu'il est important d'apprendre à se déconnecter, parce que ceux qui veulent nous chercher devraient savoir où nous trouver le dimanche matin. Au lieu qu'ils me téléphonent, je préfère qu'ils viennent à l'église, non? Oui ou non? Ah, c'était urgent! Eh bien, tu es venu à l'église, le Seigneur sait répondre à ton urgence. Non? Et c'est merveilleux de dire, ils savent où me trouver. Quelle grâce de Dieu! Et je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. Waouh, quel honneur! Quel honneur, quelle bénédiction! Et Agabus va dire quelque chose qui semblerait traduire ce moment joyeux de multiplication du peuple de Dieu comme quelque chose qui va se terminer mal. Mais vous savez, quand Dieu permet certaines conditions, c'est aussi pour nous garder avec une bonne attitude de cœur. Parce que l'Église missionnaire, l'Église qui a envoyé, c'était maintenant l'Église qui avait besoin. Et l'Église qui a besoin, elle doit être acceptée de donner, mais aussi de recevoir, non ? Si je fais un tout petit peu le parcours de l'histoire de Arles, il y a eu des moments où l'Église, elle a dû recevoir, non ? Est-ce que nous ne serions pas, nous aussi, heureux d'être une Église qui donne ? Et je ne parle pas de questions de finances, comprenez bien, même si ça fait partie. Mais moi, je souhaite que de l'Église de Arles, il y ait des ministères qui se lèvent. Pas trop fort, pasteur. Ah non, 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 on est tellement bien, je sais qu'à droite j'ai un tel, à gauche j'ai un tel, je suis bien installé, c'est bien, on répond, on ne se dérange pas trop avec des coudes, on pense ensemble la même chose, on chante à la même tonalité, à l'unisson, on est la chorale. Je disais vendredi soir, je crois que si Dieu donne autant de musiciens à l'église, c'est que Dieu a des raisons, non? Et le but, ce n'est pas de dire, ah, nous, on a X quantité de ceci, X quantité de cela. Le Seigneur dit, oh, ce n'est pas pour remplir les rayonnages. Non, c'est parce que Dieu a des projets. Mais est-ce que nous, on est prêts à rentrer dans les projets de Dieu? Est-ce qu'on est prêts à payer le prix de ce que Dieu nous demande? Est-ce qu'on est prêts à accepter d'être cette église missionnaire? Est-ce qu'on accepte la direction de Dieu ainsi que la stratégie de Dieu? Ça pourrait nous étonner, la stratégie de Dieu. Non? Ça pourrait être incroyable, la manière du Seigneur de faire. Quel stratège est Dieu quand il permet que le jour de la Pentecôte, 120 se retrouvent dans une pièce en train de prier, cachés par peur de vivre ce que Jésus a vécu quelques jours à l'avance, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit vient avec un vent impétueux, des langues de feu descendent sur chacun d'eux et ils se mettent à parler, non pas tout doucement, au point que les gens dans la rue, ils entendent parler des choses glorieuses et merveilleuses de Dieu, amen, et qu'ils soient interpellés. Et il y a eu combien de conversions ce jour-là? 3 000? Oui, c'est vrai, que 3 000. Qui voudrait voir 3 000 conversions d'un coup? Alors, elle n'est pas bonne, la stratégie de Dieu? Et après, il y a une prédication et Dieu agit. Et un peu plus loin, il va y avoir encore 5 000 conversions. Alors hier, je discutais avec des frères à table, avec d'autres pasteurs, et on parlait des baptêmes. On parlait des baptêmes. Il dit, oui, on a l'habitude de faire comme ci, comme ça. Je lui dis, mais tu penses que la première église, avec 3 000 baptêmes, ils avaient le temps de se mettre à réfléchir à tout ton truc? Faut arrêter, hein. Autrement, avant que tout le monde soit baptisé, il faut 3 000 jours. Avec 365 à disposition par an, ben les pauvres, ils tiraient le coup pour arriver jusqu'au bout. Et en plus, la persécution arrive, il faut faire vite. Dieu soit béni pour les projets de Dieu. Dieu soit béni pour la stratégie de Dieu. Dieu soit béni pour l'action du Saint-Esprit. Donc, si je fais juste un résumé, ça va se conclure à une chose principale. L'Église qui est prête à avancer malgré les défis, c'est une Église remplie du Saint-Esprit. C'est un peuple rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas pour les autres. Et pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, le Saint-Esprit, ce n'est pas une promesse écrite dans des bouquins. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient dans le cœur et qui embrase nos cœurs. L'apôtre Pierre dira, « Je me suis souvenu de la parole du Seigneur. » Est-ce qu'on est prêt à se souvenir de la parole du Seigneur? Moi, je vous baptise d'eau, mais après moi viendra celui qui vous baptisera d'esprit et de feu. Est-ce que nous voulons le baptême du Saint-Esprit? Mais est-ce qu'on est prêt aussi à se soumettre à la volonté du Saint-Esprit? Seigneur, il n'y a plus de place ce matin. Moi, je me réjouis de voir le Seigneur faire les choses. Je vous raconte juste ça. Quand on est arrivé sur l'église de Besançon, à l'église de Besançon, il y avait un certain nombre de chaises. L'église a été passée par des moments très difficiles. Et il y avait un noyau de frères et sœurs qui priaient, qui imploraient Dieu, qui pleuraient devant Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Quelques temps après qu'on soit arrivé, il y en a qui sont venus nous voir. On a prié pour que vous ne partiez pas. On avait peur qu'en voyant l'état de l'Église, vous serez repartis en courant. Mais je crois que si le Seigneur nous appelle quelque part, ce n'est pas pour partir en courant, c'est pour œuvrer. Et alors, quelques dimanches après, je commence à fouiller un peu partout et je trouve un local, une espèce de baraque, un truc, bon, je vous montrerai les photos une fois si vous voulez. Plein de chaises. Et je dis, mais les chaises, elles sont ici et dans la salle, il n'y en a que 30, c'est quoi cette histoire? Alors je prends, je nettoie les chaises et je commence à les mettre. Et là, il y a un frère qui vient me voir. « Pasteur, nous, on n'a pas l'habitude de faire comme ça ici. »« Ah bon ?» Je dis, « Vous faites comment ?» ?»« On ajoute les chaises que s'il y a les personnes. » Je dis, « Maintenant, tu vas faire l'inverse. » tu ajoutes les chaises et tu y vas par la foi, et Dieu rajoute les personnes. Là, je l'ai entendu partir en, en momonant dans sa tête, et même plus que dans sa tête, parce que j'entends... J'ai dit, bon, il n'est pas content le frère, Seigneur, bénis-le quand même. Et je rajoute 30 chaises. Vous savez quoi ? Le Seigneur les a remplies. Et après, c'est le frère qui est venu plus tôt le matin pour nettoyer les chaises et en rajouter. Je lui dis, tu fais quoi là ? Mais je rajoute des chaises. Je dis, ah là, tu ne m'hormones plus, hein ? Ah non, non, Pasteur, tu avais raison. Et on est arrivé au point où on n'avait plus de chaises. Donc j'ai dû louer un fourgon pour aller récupérer encore 80 chaises dans un autre lieu. Et on installe les chaises. Il n'y avait plus de place. Et un dimanche matin, il y avait tellement de personnes que tous les jeunes, je dis, vous vous levez, vous laissez la place. Le hall était plein. Les voies centrales étaient pleines. Il y avait des enfants partout. Est-ce qu'on veut voir ça ? Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et peut-être qu'on va être obligé de quitter notre chaise. Ah non, tout n'est pas ma chaise. Tu ne toucheras pas ma chaise. D'autant plus que pendant 7 ans, je l'ai soignée, je l'ai astiquée, j'ai passé de l'alcool pour qu'elle brille. Que le Seigneur prenne toutes les chaises. Que le Seigneur prenne tous les cœurs. Que le Seigneur nous donne grâce de faire non pas seulement 1, 2, 3, autant de cultes qu'il veut. Et si autrement, ben on prend le stade. Non ? Et au Camargue, il y a de la place pour faire des réunions, non ? Un petit bateau. Et tous autour, et là on est prêt déjà pour les baptêmes. Regardez la technique de Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt à le vivre ? Est-ce qu'on veut le vivre ? Est-ce que c'est notre prière ? Est-ce que c'est notre désir ? Est-ce que c'est le zèle qu'on veut déployer pour dire Seigneur, fais-le seulement, je suis prêt Seigneur. Mais attendez-vous aux surprises de Dieu. Si vous dites Seigneur, je suis prêt, ben, le Seigneur peut-être va démonter quelques petits châteaux que vous êtes faits dans la tête. Peut-être va demander quelques petits projets que vous êtes faits dans la tête. Seigneur, cet été, je vais faire des petites vacances, tranquille. Maintenant, le Seigneur va t'envoyer là où tu peux témoigner. Tu dis, Seigneur, j'étais venu pour me reposer, je n'ai pas eu le temps de me reposer. Ça viendra après, tu viendras de l'autre côté. Tu auras 2 minutes. Non ? Combien c'est beau de voir le Seigneur à l'action. Est-ce que nous voulons être une église qui avance ? Jusqu'à où ? Jusqu'à où vous êtes prêt à aller avec le Seigneur. C'est personnel. Hein ? Plus on va loin, plus ça coûte. Soyons clairs. Hein ? Celui qui veut suivre le Maître, qui prenne sa croix. Et Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je n'ai même pas opposé ma tête. Seigneur, je suis prêt à te suivre. Ah oui, mais moi je mange s'il y en a. Seigneur, je suis prêt à te suivre. Oui, va à la pêche, prends un poisson, paye les impôts. La technique de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à la vivre ? Oui ? Est-ce qu'on est prêt aussi à être des hommes et des femmes de foi en toute chose ? Parce qu'il y a des moments, frères et sœurs, Dieu nous demandera de faire ce qu'il nous dépasse. Non ? Est-ce qu'on est prêt à accepter que le Seigneur nous aide à dépasser nos propres limites ? On va prier ensemble. Je m'arrête là pour ce matin. On prendra la suite la fois prochaine. Parce que je crois qu'il y a encore des choses qu'on doit examiner. Et pourquoi je vous partage ces ressentis ? Parce que si une vision n'est que la vision du pasteur, c'est compliqué de marcher tous ensemble. Mais moi, je crois que quand Dieu donne une vision, c'est pour l'Église. Et c'est l'Église qui doit s'approprier de la vision de Dieu. Le pasteur, il est là tout simplement pour vous aider. Le but des ministères, c'est de travailler au perfectionnement des saints. C'est le projet de Dieu pour l'Église. Que Dieu fasse en chacun de nous ce qu'il souhaite. Mais encore ce matin, je voudrais vous encourager à dire, Seigneur, remplis-moi tout à nouveau du Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-moi du Saint-Esprit. Seigneur, change mon regard, change, Seigneur, mes pensées. Change aussi parfois mes réactions, Seigneur. Donne-moi d'être prêt, Seigneur, à travailler avec ceux peut-être que je n'aurais pas imaginé avant, Seigneur. Tel frère ou telle sœur, peut-être il y a eu un moment où on s'est fait du mal. Mais Seigneur, tu as su comment nous faire du bien. Alors je veux garder ça dans mon cœur. Seigneur, je veux te prier pour l'Église tout entière, pour nous tous, Seigneur. Nous sommes tous à tes pieds, Seigneur. Il n'y a pas de vision personnelle, Seigneur, mais c'est ta vision que nous voulons partager. C'est ta vision que nous voulons servir. C'est ta vision que nous voulons suivre, Seigneur. Et Seigneur, nous vous désirons être cette Église missionnaire là où tu nous as placés. Nous voulons te prier pour toutes ces villes qui sont dans les alentours, Seigneur. Que ta parole puisse être, Seigneur, propagée, Seigneur. Que là où tu as établi un couple, un frère ou une sœur dans le quartier, dans la ville, Seigneur, que l'Évangile, Seigneur, se répande comme un feu qui embrase, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, nous désirons entendre ce bruit de réveil qui vient, Seigneur. Ce bruit de l'action, Seigneur. L'action de Dieu. Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous avec une pensée, Seigneur, renouvelée par le Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, tout en restant attachés à ta saine doctrine, Seigneur. En restant attachés aux principes que toi, tu nous as donnés. Seigneur, en faisant preuve de sagesse, d'amour, de bonté, Seigneur. En faisant preuve, Seigneur, d'être des femmes et des hommes spirituels. En faisant preuve, Seigneur, d'être de ceux qui apportent un message de joie, de bonheur, de miséricorde. Seigneur, merci encore pour l'action que ta parole produit dans nos cœurs. Seigneur, je te prie qu'encore il y ait des cœurs qui se lèvent pour te servir, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour la jeunesse, je veux te prier pour nos enfants, Seigneur. Ce n'est pas l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas d'âge pour te servir, il n'y a pas d'âge pour t'adorer, il n'y a pas d'âge, Seigneur, pour être des instruments entre tes mains, Seigneur. Que l'âge ne soit pas une barrière, Seigneur, et que nos cœurs encore moins, Seigneur, mais que nos mains s'élèvent vers toi en disant à toi, Seigneur, et à toi seul, la gloire et la victoire au siècle des siècles. Amen.